Bonsoir, c'est En Deux Noirs, une émission sur l'actualité des polars, présentée par Jacques. Ben oui.
C'est pas bien, hein. C'est pas grave. Bon, alors, on part bille en tête avec un livre paru à la fin de l'année dernière, mais c'était il n'y a pas si longtemps, et qui s'appelle Soleil Noir, et c'est d'un auteur, Patrick Pêchereau. C'est sorti à la Série Noire, il faut que je trouve le prix, ça y est, je l'ai trouvé, 16,90€. Donc, au début de ce roman, on découvre petit à petit quatre hommes qui préparent l'attaque d'un transport de fonds dans une petite ville de province. La ville de province, elle est complètement moribonde, à cause du chômage, d'abord. Et puis, évidemment, plus les gens sont au chômage, plus les commerces meurent les uns après les autres. L'éternelle histoire, c'est une ville qui survit à peine. Et donc, de ces quatre hommes, donc on a Félix. Et Félix, il occupe la maison héritée de son oncle. C'est important. C'est un de ses laissés pour contre de notre société de winners. Il vient d'être mis au rancard. Il est chômeur. Et puis il y a Zamponi, un petit peu, un parcours différent. C'est un artisan sur le déclin. Et lui, il veut vraiment se venger de son échec professionnel en préparant ce braquage. Il y a Brandon. Je ne suis pas sûre d'avoir le bon accent. Lui, il est sûr de détenir la vérité dans le rap. Et surtout, il a la tête bourrée des inepties martelées à longueur d'année par les médias. C'est soi-disant un révolté, il a des capacités, c'est dommage. Donc lui, il va utiliser ses capacités pour l'attaque du fourgon. Enfin, le seul vrai truand de l'histoire, c'est Simon. C'est le seul truand de cette bande de branquignoles. C'est lui l'instigateur du braquage. Et il espère, une fois ses gains encaissés, se retirer des affaires. Parce que pour l'instant, les affaires, ça l'a plus souvent amené en prison que dans les palaces. Mais le sort va s'acharner sur ses bras cassés, puisque quelques jours avant la réalisation du hold-up, il y en a eu un autre, où il y a eu un mort parmi les convoyeurs de fonds. Et ça a provoqué une grève chez les convoyeurs de fonds. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais braquer des convoyeurs de fonds en grève, ça le fait pas. Donc, ça va bloquer tous leurs espoirs. L'histoire se termine, une autre histoire commence. Félix, qui est donc dans la maison de son oncle...
Mais tu nous racontes tout ?
Mais oui, mais non. Va fouiller dans les affaires de son oncle et il va tomber sur la photo d'une jolie polonaise. Donc, il va passer son temps libre à fouiller dans le passé de son oncle, de cette jolie polonaise et en fait d'une France déjà peu glorieuse dans ces années-là quant à son émigration. Patrick Pêchereau...
Heureusement qu'elle n'était pas hongroise.
Pourquoi ?
Pour rien.
Bon, excusez-moi, j'ai pas suivi. Excusez-nous cette parenthèse incongrue. Donc Patrick Pêchereau nous avait habitués à des polars, on va dire, un petit peu historiques, même si c'était mieux que certains polars qu'on appelle historiques, Les Brouillards de la Butte, Belleville-Barcelone et Boulevard des Branques. Et là, on a l'impression qu'il débute un style, une histoire totalement différente, une espèce de figure imposée, la préparation d'un braquage, le cas classique, un milieu clos. Et puis doucement, ça va complètement glisser, presque à l'insu du lecteur, vers une chronique sociale qui s'avère très, très, très noire. Les perdants, toujours les mêmes, dans le passé, les petits, les ingles, les émigrés, broyés par les intérêts de quelques autres, et surtout, la recherche du profit et d'un marché économique florissant par les autres, qui écrasent évidemment les premiers. Ça pourrait tourner au discours militantiste, maladroit et pour tout dire un peu chiant. C'est tout le contraire qui se passe. C'est une fresque sociale magnifique, pleine de gouailles, de poésie. Ça sent un peu les films de Carné, ça sent un peu les dialogues d'Audiard dans La Tendresse, aussi bien des dialogues que ce dont l'auteur enveloppe chaque personnage, jusqu'à dans la cuisine du resto ouvrier où se passe une partie du livre où ils vont se rencontrer, où les convoyeurs de fonds font leurs âgés pour continuer décider de la reconduite de la grève. Et c'est vraiment un très très beau roman, aussi bien dans le fond que dans le style. Et surtout, je parlais de fonds, et c'est pas les convoyeurs de fonds, Patrick Pêchereau nous montre, si besoin était, que le roman populaire, tel qu'on a beaucoup galvaudé ce terme, reste l'espace indispensable où l'on parle des oubliés des livres d'histoire. On espère que ce genre littéraire va perdurer parce que on a beaucoup, beaucoup de choses à dire des oubliés de l'histoire actuelle. Donc, on espère pouvoir continuer à dénoncer tout ce genre d'exactions. Alors, un petit passage pour vous montrer la nostalgie. Alors, ça se passe dans le Resto Ouvrier. Et après une ou deux émissions de FR3 qui se déplacent aux endroits où il faut, des clients, un peu endimanchés, vont aller visiter ce Resto Oublié pour se souvenir du bon vieux temps. Un monsieur, une dame. Il l'a débarrassé du manteau. Il inspecte la pièce. Il a sorti les lunettes. À travers les verres, on peut compter les vénules dans le blanc de ses yeux. Il orgne les apéritifs en se frottant les mains avec les manières d'être chez lui. Des apéritifs d'autrefois, il pense. Les Dubon, Dubon, Dubonnet, placardés dans les tunnels du métro. Il les revoit comme si c'était hier. À Paris, la ligne 4. Les wagons Sprague, rouges pour les premières classes, vertes pour les secondes, avec les banquettes en bois et les pistons des portes. Il a 10 ans. Au Châtelet, Luis Mariano, aussi beau qu'une pêche Melba, joue Marco Polo. C'est dimanche. Ce jour-là, les mutilés ne prennent pas le métro. Il l'a compris en voyant leur place réservée supporter des postérieurs ordinaires. Pas un seul béquillard, manchot, unijambiste à pilon. Aucune gueule cassée dans le reflet des vitres. Sur son strapontin, le mot Mabidocle ne sait pas qu'un jour prochain, chez Pinto, restaurant ouvrier, il rêvera au Métropolitain. Voilà, ça c'est une petite scène, toute empreinte de nostalgie, mais qui sonne complètement vrai. Je rappelle le titre, Soleil Noir, c'est paru à la Série Noire, un roman de Patrick Péchereau, hautement voilà. Recommandable.
Vous ne pouvez pas le louper, sur la couverture, il y a des liasses de billets de 100 et de 500 euros. Non, de 100 et de 50 euros, donc voilà, c'est une belle couverture en noir et blanc.
Jacques, tu vas changer complètement
de sujet, mais on reste avec un auteur français qui s'appelle Vincent Graham. Son roman s'appelle « Saïgon brûle-t-il » et il est paru aux éditions Amalté.
Le roman, une édition assez récente, voilà. Il faut le dire. Je pense que c'est leur 6e ou 7e polar.
Donc ce roman passe essentiellement à Saïgon, au Vietnam, donc en 1975.
D'où le titre judicieux.
Voilà, oui, un titre. Et donc, à la fin, dans les derniers jours de la présence militaire américaine, lesquels Américains sont en train de perdre cette guerre qu'ils avaient repris haut la main à nous autres, les Français. Et le Vietnam, c'était encore l'Indochine, mais voilà.
Ah, nostalgie.
Et ils ont perdu aussi. Mais, bien que ce soit la débâcle, ça n'empêche pas les meurtriers d'agir, bien au contraire, la confusion facilite grandement les actes
délictueux.
Voilà. Et en fait, c'est un officier américain des commandos qui est accusé de ces assassinats en série.
Un militaire qui ferait ça, bon Dieu, mon Dieu.
Et bien,
où va-t-on ?
Il semblerait que ce ne soit pas lui. Mais comme il reste dans cette débâcle, quelques personnes consciencieuses. Un journaliste, Mike London, qui va essayer de trouver la vérité, et sera aidé en cela de Tan Luong, qui est une Américaine, comme son nom ne l'indique pas. Une Américaine, mais bon, d'origine indochinoise. Et elle travaille pour le département d'État. Le département d'État, aux États-Unis, c'est le ministère l'équivalent un peu du ministère des Affaires étrangères. Elle veut pas quitter ce pays qui fut, malgré tout, son pays, sans trouver le coupable de ses exactions. Donc cette série de meurtres en série, donc cette série de crimes assez horribles.
Si tu veux qu'on t'aide à faire tes phrases aujourd'hui, on peut.
Tu peux, voilà. Excusez-moi. Donc, il y a d'autres personnages intéressants qui vont se mêler à l'enquête. Un mafieux japonais qui régnait sur un empire clandestin au Vietnam. Une médecin légiste handicapée qui, elle non plus, ne veut pas quitter le pays dans lequel elle a vécu une grande partie de sa vie.
Elle a fait sa dernière autopsie, la lumière fermée, c'est pour
pratiquement,
ça.
Pratiquement, surtout pour une Amérique, en fait, où elle ne serait qu'une étrangère. Tous ces gens-là vivent depuis tellement longtemps en Indochine, au Vietnam, que finalement, les États-Unis, ce n'est pas plus leur patrie que ce Vietnam qui quitte. Voilà, donc il y a plein de personnages qui sont au milieu d'une histoire, de l'histoire qui est en train de se dérouler. C'est la fin d'un règne, la fin d'un rêve pour certains, et aussi le début d'un espoir pour d'autres. Bon, on verra que l'espoir n'était pas forcément celui qu'ils espéraient, mais à cette époque-là, en 1975, on n'en sait encore rien. Et Vincent Graham nous fait un polar, un roman d'espionnage, c'est un peu tout mêlé, un roman historique qui est vraiment des plus réussis. L'intrigue, les intrigues même sont très bien agencées. L'écriture est simple, mais le style est efficace. Même l'histoire d'amour qu'il met au milieu des bombes qui pourrait paraître faire mauvais téléfilm, en fait, ça passe très très bien. Et il réussit en plus à ne pas être manichéen, c'est-à-dire les Américains pourris, les Vietnamiens gentils. Non, tout est un peu mêlé. Bon, je ne vous raconte pas, bien sûr, l'intrigue, la quête du méchant, est-ce qu'ils vont le trouver, ça, vous le verrez en lisant le livre. Et la bonne idée qui fait sortir ce livre un peu du lot de genre de thriller qu'on lit, ou de roman historique, c'est d'avoir mis ce Osada, là, qui est un yakuza japonais, donc mafieux, dont l'histoire au milieu de cette histoire donne quelque chose à ce roman, un ton différent. Et vraiment, pour un premier roman, je pense que...
Oui, c'est ce que j'allais demander, donc c'est son premier roman.
Et c'est un auteur donc, qui promet, surtout qu'en plus, il a réussi à ne pas faire ce que font souvent les auteurs dans le premier roman, c'est-à-dire à mettre tout ce qu'il a envie de mettre de sa vie, de ce qu'il a envie de ce qu'il sait de ça et de ça et de ça. Non, là,
Il reste sobre,
bien sûr. On sent qu'il a bien étudié la période et le Vietnam, il connaît bien, mais...
Apparemment, il est marqué dans la quatrième de couverture qu'il est spécialiste du Vietnam.
Voilà, donc, et bon, ça, évidemment, ça se sent à la lecture, mais c'est pas du tout... ni dogmatique, ni un cours sur l'histoire du Vietnam. Voilà.
Donc on va rappeler que c'est aux éditions Amalté.
Saïgon brûle-t-il, de Vincent Graham.
Voilà, on va
se mettre un petit peu de musique. Donc un hommage à Oscar Peterson qui nous a quittés il y a quelques semaines. Un petit blues, une impro lors du Monterrey Jazz Festival en septembre 2006. Il est avec son quartet et il y a deux jeunes pianistes qui sont venus le rejoindre sur scène. Hank Jones, pianiste connu, et un autre qui est moins connu comme pianiste, mais qui est quand même pas mal connu, c'est un certain Clint Eastwood. À regret, mais bon, comme c'est une impro, ça n'en finit presque pas, donc ils en ont pour 7-8 minutes, donc on va reprendre le cours.
Et je veux parler !
On va reprendre le cours de nos chroniques.
Voilà, donc, une chronique pour un bouquin qui m'a beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, et qui a un ton vraiment original.
Parce que les autres, ils t'ont pas plu ?
Non, mais j'insiste un peu. Mais d'ailleurs, le Patrick Pêchereau est un excellent roman, et je les recommande, et l'un et l'autre. Donc, un ton très différent pour La ferme du crime, Andrea Maria Schenkel. C'est un roman traduit par Stéphanie Lux, c'est un roman en langue allemande d'origine, qui est paru chez Actes Noirs, Actes Sud, et pour la modique somme de 15 euros, vous allez vous régaler. Ça se passe dans les années 50, en Bavière, et en gros, l'histoire, une famille de fermiers est assassinée, du grand-père à la domestique. On ne peut pas appeler ça une série de crimes, des crimes en série, c'est un massacre. Une famille étrange, cette famille de fermiers. Au dire des voisins et familiers, voire famille carrément antipathique. Le patriarche, le grand-père en gros, serait carrément le géniteur de ses deux petits-enfants, après le viol successif et continu de sa fille. Il pratique l'inceste tout naturellement. Et en fait, tant qu'à faire, il viole aussi les filles de ferme successives, sous l'œil carrément éteint de sa bigote de bonne femme, comme le chant de Brel. Chez ces gens-là, monsieur, on ne parle pas, on prie. Ici, dans ce livre au chapitre très très court, le temps est complètement mélangé. Chaque chapitre permettant aux proches, et souvent ennemis, puisque cette famille a beaucoup d'ennemis, de nous raconter une histoire très sombre et très noire dans la forêt, aussi noire que l'histoire, avant, pendant et après le crime. Donc tous interviennent pour raconter leur version sur la vision qu'ils avaient de cette famille et sur petit à petit la découverte du crime. Évidemment, vu leurs ennemis, de nombreuses personnes sont susceptibles de l'avoir commis, tant la haine qu'inspire le patriarche est unanimement partagée. Et finalement, c'est pas tant la résolution du meurtre, qui est le sujet principal du roman, mais plutôt la découverte progressive de ce milieu rural, on peut dire carrément sauvage et totalement ingrat, où en fait, s'éreinter les chines, comme on dit, semble être le moindre mal et la moindre douleur. Très très subtilement, l'auteur installe, je dirais presque tranquillement, une ambiance pesante, poisseuse, autour de la ferme, évidemment faussement tranquille. Et il y a aussi une espèce de comptine qui est dans la narration et qui égrènerait en fait une suite de tableaux pastoraux. Et tout ça ponctué par les prières de la bigote de grand-mère. Très habilement, le ton est toujours en décalage avec l'histoire racontée. Ça instille d'abord un rythme, parce que sinon ce serait vraiment trop lent. Les témoignages sont redondants, on raconte 10 fois la découverte du crime. Mais cette redondance est indispensable si l'on veut essayer de comprendre la véritable histoire derrière le crime. Tout au moins essayer, parce qu'évidemment, quand on plonge dans les tréfonds de l'âme humaine, on ne peut jamais avoir la vérité et connaître tout. C'est vraiment un roman très très intéressant, qui a obtenu d'ailleurs, il paraît que ça ne veut pas dire grand-chose d'après nos amis allemands, mais ça a quand même obtenu le prix du meilleur roman criminel en Allemagne en 1906. Mais ça aurait pu, hein ? Ça aurait pu. Non, c'est en 2006, un siècle plus tard. Et c'est une récompense que je trouve amplement méritée. Donc, je rappelle, Andrea Maria Schenkel, La ferme du crime, chez Actes Sud.
Dans la collection Actes Noirs.
Actes Noirs. Il est pile 18h30. C'est une merveille de précision. Mon technicien va être content. Au revoir.
Les infos.